3-0, la France bat la Suède et se qualifie pour les huitièmes de finale du Mondial. De nombreux Calédoniens se sont regroupés pour voir le match. Jean-Louis Etienne partage sa passion des océans et son engagement sur les enjeux environnementaux. Le célèbre médecin explorateur était ce matin notre invité, vous l'entendrez dans le journal. Une enquête qui fait grand bruit en métropole, une famille mise en examen à Toulon, soupçonnée d'avoir ciblé pendant plusieurs années de jeunes militaires originaires du Pacifique. Le nom d'un Calédonien disparu depuis 2022 apparaît dans cette affaire. Pour la troisième fois, les députés adoptent le texte de loi sur la fin de vie qui autorise l'aide à mourir et l'euthanasie. Le vote final est prévu en juillet. Et puis à Monaco, l'enquête se poursuit pour retrouver l'homme qui a déposé un engin explosif dans un immeuble de la principauté. La thèse terroriste est pour l'instant écartée en raison de la personnalité sulfureuse de la victime, un oligarque ukrainien qui est hors de danger. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal avec à la une aujourd'hui le football, bien sûr. L'équipe de France est en effet en huitième de finale du Mondial.
Les pages spéciales Coupe du Monde de football avec Azure Piscine et Outdoor. Un salon de jardin à l'ombre d'une pergola pour le coup d'envoi, une piscine pour se rafraîchir à la mi-temps et un canapé compressé confortable jusqu'au tir au but. Tout est chez Azure Piscine et Outdoor.
Les Bleus de Didier Deschamps jouaient ce matin leur 16e de finale. Premier match à élimination directe après les phases de poule. Et les Français, Léo Fichou, ont surclassé la Suède 3-0.
Oui, les tricolores partaient favoris, largement même, et ils n'ont pas déçu. Une première mi-temps qui a confirmé la hiérarchie. La France a rapidement pris le contrôle du ballon et même du jeu. Même si les Suédois se sont montrés dangereux grâce aux accélérations de leurs trois attaquants. C'est finalement Kylian Mbappé qui a trouvé le chemin défilé le premier à la 21e minute. Mais le capitaine tricolore était hors jeu. Kylian Mbappé a finalement ouvert le score juste avant la pause à la 45e minute de jeu, 1-0. Au retour des vestiaires, les Suédois donnent tout pour égaliser mais se découvrent. Les tricolores en profitent. À la 53e minute, Bradley Barcola inscrit son deuxième but de la compétition sur une offrande, encore une fois, de Michael Olise. Sa quatrième passe décisive, quatrième puis cinquième passe D à la 74e minute pour un nouveau but de Kylian Mbappé. Le capitaine des Bleus, désormais meilleur buteur du Mondial, a égalité avec Lionel Messi avec 6 réalisations et 18 buts, toute Coupe du Monde confondue, à un petit but de l'attaquant argentin. 3-0, c'est le score final, de quoi satisfaire le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps.
Beaucoup de fierté, on est en mission, moi aussi, avec eux. Voilà, jusqu'à notre match, il y avait eu des 16e compliqués, très difficiles. Je ne vais pas dire que le nôtre a été simple. Mais on a eu de la marge quand même, même si on aurait pu être plus efficace en première mi-temps. Donc, il faut apprécier. On sait que dans 4 jours, on en a un autre, mais on est là pour ça. Les joueurs sont là pour ça. Il y a une autre étape à franchir. Celle-là, elle est franchie. Quand on fait bien les choses et bien ensemble, avec un très bon état d'esprit, beaucoup de fierté.
Les joueurs sont en mission, ce sont les mots de Didier Deschamps il y a quelques jours et encore quelques minutes. Le capitaine des Bleus, lui, a conscience de ce que l'équipe de France peut et doit faire dans ce Mondial. Écoutez Kylian Mbappé.
Je dis toujours que je suis conscient de ce que je joue, conscient d'où je suis et ce que je dois faire. Mais ce n'est pas seulement moi, je pense que l'équipe est parfaitement consciente de ce qu'on doit faire ici. C'était une nouvelle compétition qui commence aujourd'hui, on a bien joué. On a une entame un peu timide. Je pense qu'on pouvait mieux entamer le match. Mais après, on s'est mis dedans. On a eu des occasions qu'on pouvait mettre avant. Mais vous savez, ça fait partie du foot. On a réussi à marquer et on a contrôlé le match. Je suis déjà tourné vers le vestiaire et la clim un peu parce qu'il fait chaud. Mais on va se mettre vers le Paraguay. Ils ont montré que c'était une équipe qu'il fallait prendre au sérieux. Ils ont battu l'Allemagne. Donc, il n'y a pas de match facile en Coupe du Monde. Et on va aller là-bas pour essayer de gagner.
Kylian Mbappé qui a été élu une nouvelle fois homme du match, un match suivi, très suivi même en Nouvelle-Calédonie. Plusieurs dizaines de supporters s'étaient réunis, notamment au bout du monde. Écoutez.
Franchement, beaucoup d'avancées. On sent vraiment une équipe qui est en progression de match en match. Beaucoup moins d'erreurs comparé à l'Irak et contre la Norvège. Non, franchement, on est très content. Doublé d'Mbappé, il égalise Messi sur les scores. On est très content, on attend le prochain match.
C'était une démonstration. La France, comme d'habitude, là, 3 buts, puis il y a du spectacle. C'est beau à voir.
Doublé de Mbappé, ça fait plaisir?
Ça fait plaisir, oui. On commence à avoir l'habitude là, maintenant.
C'est la régalade parce que ça fait plusieurs compétitions comme ça qu'on voit et c'est la première fois qu'on voit des aussi gros scores en début de compétition. Donc en vrai, moi c'est le truc que je retiens. Là on enchaîne, on fait 3-0 en 16e, on a fait que des gros scores en phase de poule.
Grande équipe de France comme on s'y attendait, puis on est parti pour les 8e contre le Paraguay. Donc, je suis très satisfait et bravo à Michael Olise pour son match.
Démonstration de l'équipe de France aujourd'hui. 3-0.
Là je suis refait. Bonheur pour tout le monde.
En huitième de finale, les Bleus joueront donc contre le Paraguay. La rencontre est prévue dimanche à 8h. Écoutez déjà les pronostics des Calédoniens rencontrés ce matin.
Ça démarre bien et puis là, le Paraguay la prochaine fois, ça va être très très bon.
On va partir sur un 4-0.
Il n'y aura pas de pronostic quand je vois l'Allemagne, quand on a vu la Suisse à l'Euro 2020, je crois que c'était ça. Donc le Paraguay, on ne sait jamais, il faut quand même s'en méfier. Donc oui, non, en principe, on est favori, mais ça devrait, ça y aura quand même du jeu, il faudra quand même faire attention.
Des propos recueillis par Léana Colombo ce matin. Le rendez-vous est pris dimanche matin, 8h, pour France-Paraguay.
Voilà donc pour le 16e de finale de la France ce matin, mais il y a deux autres 16e de finale au programme. Aujourd'hui, Norvège-Côte d'Ivoire et Mexique-Équateur.
Oui, très tôt ce matin, la Norvège est venue à bout de la Côte d'Ivoire. Victoire 2-1, avec notamment une nouvelle réalisation d'Erling Haaland, son 5e but dans cette Coupe du Monde. Mbappé et Messi en sont à 6. Au prochain tour, les Norvégiens défieront le Brésil. Et puis dans quelques minutes, à midi, le coup d'envoi de ce duel 100% américain entre le Mexique et l'Équateur. Les Mexicains qui évoluent à domicile au stade Azteca de Mexico. Le vainqueur affrontera soit l'Angleterre, soit la République démocratique du Congo en 8e de finale.
Peu importe le résultat du match, votre extérieur, lui, est parfait. Chez Azure Piscine Outdoor, on a tout pour rendre vos soirées foot inoubliables. Pergola et mobilier outdoor pour le confort des supporters, parements muraux en pierre ou PVC pour un style qui claque. Azure Piscine Outdoor à Magenta et Païta, 46 42 42.
En Nouvelle-Calédonie, les suites des élections provinciales. À deux jours maintenant de la désignation des bureaux et des présidents des assemblées des trois provinces, ce sera vendredi. Les différents partis affinent leur stratégie. Une fois les nouvelles assemblées de provinces mises en place, le Congrès se réunira une semaine plus tard dans sa nouvelle composition pour désigner lui aussi les membres du bureau et élire le président. Notez que le gouvernement se réunit une dernière fois ce matin en fonctionnement dit normal. Il ne gérera ensuite que les affaires courantes jusqu'à la mise en place du 19e gouvernement. Il est 11h38, une première pause dans ce journal. Dans un instant, la suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie. Jean-Louis Etienne, le médecin explorateur, était notre invité ce matin. Vous l'entendrez après la pause.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Bureau Vallée, mercredi pédagogique, direction Bureau Vallée, Magenta. Profitez de moins 20% sur les rayons beaux-arts, loisirs créatifs et librairies. Peinture, dessin, lecture, activités créatives, partagez de bons moments en famille, sans vous ruiner. Offre valable chaque mercredi pédagogique chez Bureau Vallée, Magenta.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Je dis à tous les jeunes, suivez la voie de vos rêves, même si le chemin est difficile. C'est l'une des phrases que Jean-Louis Etienne a écrite dans le livre d'or de Radio Rythme Bleu. Le célèbre médecin explorateur passe quelques jours en Nouvelle-Calédonie sur le Persévérance, le navire d'exploration océanographique qu'il a créé et qui fait relâche quelques mois au Quai des Scientifiques. Et il était ce matin notre invité à 7h30. Jean-Louis Etienne s'est rendu célèbre il y a 40 ans maintenant en ralliant le pôle Nord à pied en tirant son traîneau. Depuis, il consacre sa vie à l'exploration des régions glaciaires. Et depuis quelques années, c'est l'océan Austral et le pôle Sud qui concentrent son attention.
Quand on parle de l'Antarctique, c'est un continent de glace qui fait 28 fois la surface du pays de la France, en surface, recouvert de 2,5 km de glace d'épaisseur moyenne. Ça, c'est l'Antarctique. Et tout autour, c'est le courant circumpolaire antarctique, cet océan géant qui fait 22 000 km de circonférence, c'est un acteur majeur du climat. Il absorbe à lui seul la moitié du gaz carbonique, du CO2 que l'on émet un peu en excès. Et c'est en même temps une réserve de biodiversité et de vie exceptionnelle. Il est loin, il est difficile d'accès et les campagnes ne se font qu'en été. Et donc mon objectif, c'était de répondre à cette attente des chercheurs, faire des mesures in situ de longue durée tout au long de l'année pour voir comment ça évolue. Parce qu'on passe de la chaleur subtropicale au froid et à la nuit polaire. Donc comment évoluent les espèces? Qu'est-ce qui se passe sur cet océan? Voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille.
Et lorsqu'il n'est pas en expédition, comme c'est le cas en ce moment, Jean-Louis Etienne consacre son temps à la pédagogie. De nombreuses classes viennent visiter son navire et il donne aussi de nombreuses conférences. C'est l'occasion pour lui de passer des messages qui lui tiennent à cœur.
Moi, j'ai fait des études de médecine, j'étais assistant d'université, j'ai une culture de l'exigence scientifique, mais je suis pas un scientifique de terrain. Par contre, je suis un relais, je comprends les choses. Et on a besoin d'une pédagogie sur des... On est beaucoup dans l'émotionnel quand on parle d'écologie, on politise tout de suite avant d'avoir compris la complexité. Vous savez, il y a Jean Jaurès, en 1903, fait un discours à la jeunesse. Aller à l'idéal, tout en comprenant le réel. Il y a tout dans cette phrase, quoi. Je dis sans arrêt, tout à fait d'accord avec toi. Conserve ton idéal, travaille sur l'idéal, mais il faut le marier avec la réalité du monde, sinon ça sert à rien, tu t'enfermes, quoi. Et le mot persévérance, il est bien à partager. C'est ce que je dis tout le temps quand je fais des conférences dans les classes. Ils me regardent comme un héros inaccessible un peu. Je dis, non, attends, ne rêve pas de ma vie, elle n'est pas faite pour toi. Mais maintenant, est-ce que tu as un truc, une envie, quelque chose, un truc qui te revient, que tu aimerais faire? Je dis, ça, c'est le capital. Et ça, il va falloir le travailler, mais ce n'est pas parce qu'on en a envie que c'est facile. Ça va demander du temps, du travail et de la persévérance, ce mot donc qui m'accompagne depuis longtemps.
Par ses travaux, Jean-Louis Etienne est aux premières loges pour constater les changements générés par le réchauffement climatique et aussi par l'action de l'homme et ses conséquences sur la biodiversité. L'urgence à changer les choses est réelle, insiste-t-il, mais pour autant, il ne cède pas au pessimisme.
Elle peut être angoissante, l'évolution. Il y a deux phénomènes majeurs. Il y a bien sûr le réchauffement climatique et l'impact que l'on a sur la biodiversité, sur les espèces, quoi. Alors, la biodiversité, les espèces, elles ont une capacité à se réadapter si l'on recrée des conditions.
Si l'on recrée des conditions.
Voilà. Mais c'est quelque chose sur le vivant qui peut, lui, s'adapter. Par contre, le climat, c'est une machine qui a une inertie énorme. C'est une machine thermique, le climat. C'est l'échange entre la chaleur des tropiques et le froid des pôles. Ça crée les courants océaniques qui amènent l'eau chaude vers le nord et les vents pareils. Mais c'est une fièvre chronique qui a commencé il y a 150 ans, on va dire, au début de l'ère industrielle. C'est très sournois, ça avance doucement. Et, c'est vrai, ben oui, c'est le réchauffement climatique. Ah bon, vous voyez, c'est quelque chose qui est une fièvre chronique qu'il faudrait aujourd'hui traiter, un traitement d'urgence. On sait ce qu'il faut faire. Il faut passer des énergies de stock, pétrole, gaz et charbon, à des énergies de flux, l'électricité, décarbonée. Ça, c'est un chantier pour lequel on a l'intelligence des solutions. Donc, c'est une mobilisation. J'ai fait une conférence à l'école des mines. Et alors, il y en a beaucoup qui sont, comme vous savez, pessimistes, etc. Mais je dis, attendez, les 30 Glorieuses, c'est pour vous. Moi, je suis un boomer, hein, à 80 ans. Et donc, les 30 Glorieuses qui arrivent, quoi. J'ai dit, parce que si jamais vous faites rien, on vous dira, mais oui, vous avez à un moment donné capitulé, quoi. On a l'intelligence des solutions. Vous avez l'intelligence des solutions. Vous êtes vraiment ceux qui peuvent apporter la... Voilà. Et donc, il faut mettre en œuvre le process, quoi. Hein.
Jean-Louis Etienne reste quelques jours en Nouvelle-Calédonie. Il donne ce soir à l'université, à 18h, une première conférence sur le thème Inventer sa vie, oser transmettre. Et demain, à l'auditorium de la Province Sud, toujours à 18h, il abordera le thème Renouer avec l'écosystème Terre. Jean-Louis Etienne quittera ensuite la Calédonie pour y revenir au mois d'octobre, quelques semaines avant que le Persévérance ne reprenne la mer pour poursuivre ses explorations dans les eaux australes.
RRB, il est 11h43.
Les élus du conseil municipal junior de Nouméa en sortie ce mercredi pédagogique tout au long de la journée à la Maison du Combattant. Il sera question pour eux, Lionel Sabot, de devoirs de mémoire et de préparation de la cérémonie du 14 juillet.
Oui, lors de cette journée, dans le cadre de leur parcours civique, les conseillers municipaux juniors découvrent notamment l'ONAC, l'Office National des Anciens Combattants, afin d'être sensibilisés aux enjeux civiques et historiques liés aux engagements passés. Jérémy Duval, coordinateur des actions éducatives à la ville de Nouméa.
Aujourd'hui, les jeunes sont là dans le cadre de leur parcours civique. Donc on cherche à les initier sur le devoir de mémoire et de leur montrer ce qu'on va trouver à travers le devoir de mémoire et notamment les commémorations auxquelles ils sont conviés le 14 juillet. Et ils feront également la commémoration du 11 novembre et on fera une autre action avec l'ONAC à travers une course d'orientation mémorielle. Une course d'orientation où ils iront chercher des indices sur la Première Guerre mondiale, et ça sera un petit peu plus tard dans l'année.
Vous les sentez réceptifs à l'histoire, finalement, de la Nouvelle-Calédonie ?
On les sent réceptifs, et on sent que c'est des enfants qui sont très curieux. Ils s'intéressent vraiment à tout, ils sont toujours partants, et c'est un réel plaisir de leur offrir ces opportunités-là, parce qu'ils sont, eux, demandeurs, et on a vraiment de la chance d'avoir un bon groupe.
Et c'est donc à la Maison du Combattant, dans les locaux de l'ONAC, que ces jeunes sont accueillis pour une journée de découverte extrêmement ludique. Tiffaine Leclerc est la nouvelle directrice de l'Office National des Combattants et Victimes de Guerre.
Toute la journée, nous accueillons donc l'ensemble du conseil municipal junior. L'idée, c'est de leur transmettre la mémoire. Donc ça se passe en deux ateliers. Premier atelier qui s'appelle « Explique-moi une cérémonie ». Qui est sous forme de jeu ludique pour leur donner des clés de compréhension puisqu'ils seront amenés à assister à des cérémonies et ces cérémonies sont rythmées avec des étapes bien particulières, donc on essaye de leur donner les outils pour bien comprendre ce qui s'y passe. Et deuxième atelier, donc sous forme d'un escape game où ils sont amenés à chercher des informations, des indices sur le thème du bataillon du Pacifique, puisque nous fêtons cette année le 80e anniversaire du retour des volontaires du Pacifique.
Escape Game pour évoquer donc les héros du bataillon du Pacifique, jeu de plateau pour comprendre ce qu'est et comment se déroule une cérémonie militaire. Les jeunes du conseil municipal junior ravis de participer à cette matinée d'apprentissage.
Ce matin, on a fait un escape game, ouais. Et on devait trouver des numéros pour ouvrir des coffres.
Et ça parlait de quoi cet escape game ?
De la guerre, ouais. De ceux qui se sont sacrifiés pour la France, qui ont protégé la France et tout ça.
On devait trouver un prénom de guerre. Mm-hmm. Enfin, de quelqu'un qui a fait la guerre, ouais. Et c'était un peu long parce qu'on devait beaucoup lire et écrire.
Ça m'intéresse beaucoup parce que tu apprends des choses que tu savais pas et aussi tu découvres de nouvelles choses, tu sais c'est qui a fait la guerre et c'est cool de faire CMJ.
Et j'ajoute que ces activités du conseil municipal junior de la ville de Nouméa se poursuivront cet après-midi, toujours à la maison du combattant.
En bref, le RSMA change de commandant. La cérémonie de passation a eu lieu ce matin à Coumac. Le colonel Jérémy Guibaud remplace le lieutenant-colonel Faldonier Réveillon qui aura passé 2 années à la tête du régiment du service militaire adapté en Calédonie. Le colonel Guibaud a fait sa carrière dans les troupes de marine et notamment servi au RSMA en Guyane. La cérémonie de passation de commandement ce matin a été présidée par le général Patrice Belon, commandant le service militaire adapté et sous l'autorité du haut-commissaire Jacques Billon. Elle s'est conclue par un défilé du régiment. Toujours en bref, Dumbéa met en place le 10-12 à l'image de Nouméa et du Mont d'Or. La commune de Dumbéa se dote d'un numéro gratuit pour joindre la police municipale. Ce numéro est dédié aux interventions d'urgence. Le 10-12 peut être appelé aux heures de permanence téléphonique de la police municipale. Les bureaux de la police municipale accueillent le public du lundi au vendredi de 7h à 16h et en dehors de ces horaires, les administrés sont invités à composer le 17 qui est le numéro d'appel de la gendarmerie. Enfin, après les exactions commises le week-end dernier à des pins, la commune maintient les mesures exceptionnelles jusqu'à la fin du mois de juillet. Cantine, transport scolaire, ramassage des ordures et plusieurs équipements municipaux restent suspendus ou fermés. Dans un communiqué publié tôt ce matin, la municipalité condamne une nouvelle fois les actes de vandalisme et appelle au respect des institutions. Une réunion d'information avec la population est organisée depuis 10h sur le marché de Vao.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici justement notre question du jour. Approuvez-vous la fermeté du maire de l'île des Pins qui a décidé de fermer l'ensemble des services municipaux jusqu'au 31 juillet après la série de violences commises dans la commune et notamment l'incendie de locaux municipaux? Si vous approuvez cette fermeté, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Et puis la réponse à notre question d'hier. 94% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent au lendemain des élections provinciales que Calédonie Ensemble a totalement disparu du paysage politique calédonien. Ils sont 6% à penser qu'elle peut encore rebondir. L'effet divers avec ce vaste dossier criminel qui secoue le sud de la métropole. Et dans cette enquête figure le nom d'un jeune Calédonien disparu depuis 2022, Jacques Paquesso, Léo Fichou, pardon.
Oui, selon les révélations du quotidien Var Matin, une famille a été mise en examen dans une enquête portant sur des violences, des séquestrations, des extorsions et la disparition donc de deux jeunes hommes originaires du Pacifique. Les enquêteurs soupçonnent le clan familial d'avoir, pendant plusieurs années, ciblé de jeunes militaires océaniens, souvent isolés de leurs proches, pour les dépouiller de leurs papiers, de leurs téléphones et de leurs moyens de paiement. Parmi les disparus figure Jacques Paquesso, un jeune Calédonien parti en métropole pour intégrer la marine nationale. Il n'a plus donné signe de vie depuis 2022. Un autre militaire recruté en Polynésie est également porté disparu. Toujours d'après le quotidien, les auteurs présumés sont aussi originaires du Pacifique. Un membre de la famille mis en cause affirme que les deux hommes auraient été assassinés. Les principaux suspects, la mère et son fils, contestent ces accusations. Ils ont été mis en examen ces derniers jours, placés en détention provisoire. L'enquête, elle, se poursuit.
Il est 11h50, une nouvelle pause et dans un instant, c'est toute l'actualité en métropole.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite de votre journal, l'actualité en métropole, avec Jean-François Baudin.
Et pour la troisième fois, les députés ont voté le texte de loi sur la fin de vie qui autorise l'aide à mourir et l'euthanasie. Le parcours législatif de ce texte n'est pas encore terminé, mais lors du vote cette nuit, l'écart entre les partisans et les opposants s'est resserré. 295 députés ont approuvé le texte, alors que 232 y sont opposés. Alexandre Chauveau pour Europe 1.
L'opposition au texte persiste en dépit d'une majorité obtenue pour la légalisation du suicide assisté. À gauche et au centre, les partisans de l'aide à mourir se félicitent d'une loi qu'ils estiment suffisamment encadrée. Le député Modem, Philippe Vigier.
C'est une loi qui s'adresse à des personnes qui sont en fin de vie, qui sont malheureusement avec des maladies incurables, réfractaires, avec des douleurs absolument indicibles. Eh bien, le chemin de la dignité, c'est de leur permettre de partir si elles le veulent une fois de plus.
La droite et le RN ont majoritairement voté contre en soulignant tous les points qui leur paraissaient problématiques, comme l'absence de clause de conscience collective pour les établissements privés qui ne souhaitent pas pratiquer l'euthanasie ou le délai de réflexion de 2 jours jugé beaucoup trop court pour que le patient confirme, après avis médical, sa volonté de mourir. La députée LR, Justine Gruet.
Ce qui m'a frappée pendant tous les débats, c'est la légèreté avec laquelle ils ont pu caricaturer les alertes qu'on pouvait avoir sur ce texte. Ça nécessite de la profondeur, ça nécessite de l'engagement. Et pour moi, il manque de sécurisation.
Et les recours semblent désormais limités, puisqu'après le rejet prévu du Sénat la semaine prochaine, le gouvernement a décidé de donner le dernier mot aux députés.
Et ce vote définitif sur le texte à l'Assemblée nationale aura lieu à la mi-juillet. La séance à cette Assemblée nationale s'est tendue lors d'un échange entre la chef des députés écologistes et le Premier ministre. Cyrielle Chatelain a accusé Sébastien Lecornu et son gouvernement d'impréparation face à la vague de canicule qui a touché la métropole ces derniers jours.
Sous votre gouvernement, la canicule s'est transformée en violence politique.
Une attaque qui a fait vivement réagir le Premier ministre qui a dénoncé les mensonges proférés par les écologistes depuis 3 jours.
D'où sortez-vous ce bilan de 10 000 morts sur lesquels vous et les vôtres, votre collègue président Gontard au Sénat, madame la députée Rousseau, un certain nombre sont allés sur les plateaux de télévision depuis maintenant plus de 3 jours en établissant un bilan humain qui est faux. C'est scandaleux, c'est indigne.
Et à la fin de cette séance, les écologistes ont déposé une motion de censure contre le gouvernement. Rappelons que selon Santé publique France, 1000 décès supplémentaires ont été recensés pendant la vague de canicule par rapport à la moyenne de la mortalité. Les policiers sont en colère et ils ont manifesté cette nuit sous les fenêtres du ministère de l'Intérieur. Au cœur de leurs revendications, le manque de moyens et des salaires trop faibles.
Tout ce qui est matériel, on a 20 ans, 30 ans de retard quand les voyous, eux, bénéficient de toute la technologie pour être encore plus performants dans leurs actes délinquants et criminels.
On a aujourd'hui 200 000 signalements d'atteinte aux mineurs sur le domaine de la cyberpédophilie ou pédopornographie et on est en capacité aujourd'hui d'en traiter seulement 5%.
Ils étaient plusieurs centaines à manifester sous les fenêtres du ministère de l'Intérieur. Et puis à Monaco, l'enquête se poursuit pour retrouver l'homme qui a déposé un engin explosif dans un immeuble de la principauté. L'explosion visait un oligarque ukrainien. Il a été gravement blessé avec sa femme et son fils de 13 ans. Le pronostic vital de la femme est toujours engagé, mais les 2 autres victimes sont hors de danger. Le procureur général de Monaco, Stéphane Thibault, est revenu sur les faits.
Nous avons un homme seul qui dépose un colis peu de temps avant que les 3 occupants de l'appartement du rez-de-chaussée de cet immeuble se présentent à la porte et le colis explose au moment où ces 3 personnes arrivent.
L'enquête se poursuit, mais les autorités monégasques écartent pour l'instant la thèse terroriste en raison de la personnalité de l'oligarque ukrainien visé. Vadim Ermolaïev a fait fortune dans le commerce d'alcool. Il a une personnalité sulfureuse et il est sous le coup d'une sanction du régime ukrainien qui, pour l'instant, n'a pas réagi. Il est 11h55, la dernière pause de ce journal. On revient au sport parce qu'il n'y avait pas que du football ce matin.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020.
Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
La fin de votre journal Le Sport avec Jean-François Bodin.
Et je vous rappelle que nous avons ouvert ce journal avec le football et large victoire de l'équipe de France sur la Suède ce matin en 16e de finale de la Coupe du Monde. Les Bleus, vainqueurs 3-0, seront opposés au Paraguay dimanche matin à 8h en 8e de finale. Il y a deux autres 16e de finale aujourd'hui. Rappelons que tôt ce matin, la Norvège est venue à bout de la Côte d'Ivoire 2-1. Et puis à midi, c'est-à-dire dans quelques minutes, ce sera le coup d'envoi d'un duel 100% américain entre le Mexique et l'Équateur. Mais le sport, c'est aussi du tennis, Léo Fichou, avec le premier tour de Wimbledon. 18 Français sont engagés dans le tableau principal. Bilan, 9 victoires, 8 défaites et un match interrompu.
Oui, chez les dames, d'abord, elles étaient 4 tricolores au départ. Diane Paris et Léolia Jean-Jean se sont qualifiées pour le deuxième tour. En revanche, défaite d'Elsa Jacquemot et de Loïs Boisson. Chez les hommes, 7 se sont qualifiés pour le deuxième tour. Lors de ce troisième tournoi du Grand Chelem de la saison, après l'Open d'Australie et Roland-Garros à Paris, victoire d'Arthur Hinderknecht, d'Adrien Manarino, d'Arthur fils de Kyrian Jacquet, de Quentin Alice et de Valentin Royer. Enfin, la rencontre entre Terence Atman et Frances Tiafoe a été interrompue par la nuit. L'Américain menait 2-7-1.
Et puis, côté calédonien, un mot de natation avec une nouvelle razzia de médailles pour Christian Haro. À 85 ans, il était engagé ces derniers jours au championnat de France des maîtres à Tarn. Aligné sur 5 épreuves, il a remporté 5 médailles d'or. Christian Haro, licencié à l'Olympique de Nouméa Natation, compte désormais 23 titres de champion de France et plusieurs records nationaux à son actif dans sa catégorie. Chapeau, il est 11h58, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Le prochain rendez-vous d'info, c'est 13h pour le rappel des principaux titres de l'actualité, juste à la fin d'InfoMag. Bel après-midi à tous.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.